Merci aux musiciens qui ont accepté cette version plus intimiste aujourd'hui, puisqu'il y en a plusieurs qui sont un peu malades. À mon avis, Franco, ça fait tellement longtemps qu'il n'a plus travaillé que... Épuisé, non, il est mal la gorge et pas trop bien, donc... Voilà, on pense à eux. C'est vrai que... à qui irions-nous ? C'est un beau chant, c'est un beau chant tiré des Écritures, hein, où Jésus dit, il y a plusieurs des disciples qui s'en vont, et il dit, et vous les amis, vous ne voulez pas partir ? Et Pierre, alors que Jésus dans Jean 6 vient dire des choses tellement fortes sur lui, pain de vie, il faut le manger, je ne pense pas que Pierre ait compris grand-chose, mais au moins il réalise que, mais à qui irions-nous Seigneur ? C'est toi qui as les paroles de la vie, c'est toi... C'est toi le sens de l'existence, tu es Dieu, on n'a pas tout compris, mais on sait que c'est toi le Messie, le Christ. Le Christ, c'est celui qui est oué, qui est choisi, hein, que Dieu a mis à part pour notre salut. Et ça, c'est notre assurance, notre motivation première. À qui irions-nous ? Peut-être parfois, il y a plein de choses qu'on peut ne pas comprendre, ne pas ressentir, on se sent vraiment mal. Mais de toute façon, ce qu'on propose dans les autres magasins religieux, ça ne tient pas la route. Nous savons que c'est toi le Christ, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et c'était tellement des beaux chants. Invoque le chant du Père sur ma vie. Je veux vivre ma vie dans ce courant, dans ce ruisseau. Waouh, ça c'est notre Dieu. À qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie et tu es en train de me conduire dans la vie. Et la vie, elle est déjà là en moi. Alors, on passe à la dixième compétence. On en a sélectionné une douzaine pour vraiment stimuler notre croissance. On terminera le premier cycle cette année et puis on redémarrera différemment, mais en route vers le premier quart du siècle, en étant une église mature, des chrétiens forts dans le Seigneur. Aujourd'hui, pendant ce mois de mai, il y aura d'autres prédications, c'est deux en mai et puis deux en juin, on va rentrer dans le cœur de la centrale thermique spirituelle du chrétien. On parle beaucoup des centrales. Est-ce qu'on va les fermer, on ne va pas les fermer, les verts, les bleus, les rouges, les mauves se disputent. Nous, on ne va pas se disputer. On va rentrer sans équipement, sans protection, au cœur du réacteur de la vie chrétienne. C'est pas mal ça, quand même. Vous voyez, j'ai mis l'équipement adéquat. On va descendre et on va se faire irradier encore et encore. On va descendre au cœur de la centrale de la vie chrétienne. Cette compétence, elle est capitale. J'ai presque envie de dire que c'est elle qui donne l'énergie pour les autres compétences. Quand on parle de discipline, quand on parle de l'identité, quand on parle de motivation, quand on parle de la transmission, tout ça part du réacteur. Mais en même temps, on pourrait dire que toutes les autres compétences, toutes les choses que nous mettons en place dans la vie chrétienne, c'est discipline, c'est motivation, c'est l'importance de cette force exponentielle, repensez à tout ce qu'on a déjà dit, elles viennent aussi alimenter le réacteur. Là, on descend maintenant, j'ai envie de dire, dans le lieu très saint, dans le langage biblique. C'est dans le tabernacle que Moïse a construit, il y avait le parvis, où les prêtres, les sacrificateurs pouvaient venir, celui qui offrait des animaux. Dans le lieu saint, où on offrait des parfums, dans cette petite pièce, hein, c'est pas grand. Hein. Mais il y avait le lieu très saint, où personne ne pouvait rentrer. Là, il y avait l'arche avec les chérubins, une fois par an. Mais il fallait faire monter des parfums pour qu'il règne un sorte de brouillard aromatique. Et on venait une fois par an offrir le sang d'un animal pour recevoir le pardon de Dieu. Nous rentrons maintenant le Saint des Saints en nous-mêmes, là où l'Esprit de Dieu est en nous. On va parler maintenant du potentiel de l'esprit. Alors, pour faire rimer tous les titres, je voulais mettre potentiel spirituel, parce que bon, spiritus, esprit spirituel, vous savez, le mot spirituel, je pense pas, mais je me suis dit parfois, les chrétiens ne savent pas toujours que spirituel, ça vient de esprit. Hein, une vie spirituelle, c'est une vie animée de l'esprit. Un chant spirituel, c'est un chant animé par l'esprit. On va donc maintenant parler de nos notes, du potentiel de l'esprit en nous. la vie de l'Esprit, ce qui est unique dans sur terre. J'aime pas dire au niveau religieux, parce que le christianisme, c'est pas une religion, c'est vraiment la vie de Dieu qui rentre en nous, son esprit vient en nous, c'est notre spécificité. Alors, je sais que quand on aborde cela, tout de suite, peut-être, mais je ne veux pas trop tenir compte des peurs des uns et des autres. Hein. Je crois qu'il y a deux extrêmes à éviter. La surexagération, on a l'impression dans certaines communautés que, oui, il y a le Père, le Fils, et, oui, mais il y a surtout l'Esprit. Il n'y a que acte 2, il y a on ne parle que de cela. Et puis il y en a d'autres qui ont tellement peur des abus qu'ils n'en parlent pratiquement jamais. Hein, et qui peut-être ne vivent pas grand-chose. L'Écriture est tellement équilibrée. Je crois que la clé pour vraiment nous mettre à l'aise, mais en même temps, je crois que c'est la spécificité, je pense, d'un bon équilibre doctrinal, bon équilibre d'Église, et c'est vraiment ce que nous voulons. On veut être évangélico-charismatique. C'est-à-dire que on doit maintenir toujours l'œuvre du Christ et l'œuvre du Saint-Esprit ensemble. Ils sont unis. Hein? Il y a certaines approches qui donnent l'impression que, OK, à la conversion, tu as reçu quelque chose de Jésus, et puis attends un petit peu, on va mettre Jésus de côté, et puis l'Esprit va venir, alors là, tu vas rentrer. L'Écriture ne va jamais dans ce sens-là. L'Esprit est intimement lié à Jésus. D'ailleurs, l'œuvre de l'Esprit consiste vraiment à prendre ce qui nous a été donné en Jésus, prendre ce qui nous a été donné, accompli par l'œuvre de Christ, et nous le donner. L'Esprit est toujours lié à l'œuvre, c'est l'Esprit de Jésus. Il va rendre effectif, il va transformer ce que le Christ a fait pour nous en expérience, en événement. On pourrait dire que l'Esprit vient nous donner forme de chrétien. Il vient rendre le Christ présent, efficace. Donc, ce n'est pas deux doctrines différentes. D'ailleurs, Jésus disait, l'Esprit ne va pas parler de lui-même, il va parler de moi. Le Christ et l'Esprit ne s'opposent pas, ils font le même travail. Et l'Esprit vient, et il vient m'ouvrir les yeux sur ce que Jésus a fait, et il vient rendre l'œuvre de Jésus efficace, et ça, il fait de moi, il me permet de goûter une expérience, il fait du Christ un événement dans mon existence, il me dirige vers le Christ. L'Esprit exprime la vie du Christ dans la vie des disciples. Et donc, on n'a pas à avoir peur. On n'a pas un sous-Jésus et un super-Esprit. Les deux sont ensemble, ils sont unis, Père, Fils et Saint-Esprit. C'était juste cette petite remarque, mais je ne voudrais pas qu'on... trop souvent, on aborde cette question-là en étant très, très réticent, en ayant peur. L'Écriture ne va pas dans ce sens-là. Jésus dit, il vaut mieux que je parte, parce que alors, mon esprit viendra en vous, et il me rendra vivant en vous. C'est l'Esprit du Seigneur qui rend la vie chrétienne possible. C'est lui qui a ouvert nos yeux sur ce que le Christ a accompli. C'est lui qui est venu nous persuader du besoin du pardon. C'est lui qui est venu nous régénérer. C'est lui qui est venu habiter en nous. Donc, il y a un tel potentiel, dans l'Église, dans la vie du disciple, parce que Dieu est vraiment là. On n'est pas juste des têtes remplies de doctrine. Il y a quelqu'un qui est là. Et je voudrais, à travers ces quatre messages, vraiment nous encourager, nous emmener plus loin dans la vie de l'Esprit. N'ayons pas peur. Il n'y a pas de texte dans l'Écriture qui nous met en garde, dire « n'ayez pas peur de mon Esprit ». Comme tu le lisais, des fleuves d'eau vive vont couler. Et Jésus dit, je dis cela de l'Esprit qui viendra en vous. N'ayons pas peur. Alors, il m'a semblé intéressant, les enseignants parlent beaucoup de cela pour l'instant, la remise à niveau pour tous les élèves qui étaient en décrochage. Alors, il m'a semblé qu'avant de voir certaines choses peut-être moins connues, dans nos vies par rapport à l'Esprit, d'avoir un culte qui va servir un peu de remise à niveau. Donc pour les plus anciens, peut-être ce sont déjà des choses connues, mais pour ceux qui nous rejoignent, je crois que ce sera un bon rappel. Et puis en même temps, je me disais aussi cette nuit, je crois que c'est tellement bon de revenir sur les vérités fondamentales de la vie de l'esprit pour ne jamais les négliger. C'est notre spécificité, nous sommes devenus des porteurs de Jésus. Et c'est probablement le domaine sur lequel il faut le plus revenir. Comment je vis avec l'esprit? Comment il me remplit? Je ne peux pas m'habituer à cela. Or, si souvent c'est le cas. Alors ce que je vais faire aujourd'hui, à travers un texte des évangiles, qui ne parle pas du Saint-Esprit, mais je vais l'utiliser un peu comme une parabole. Une petite histoire, l'histoire d'une guérison, et je voudrais y accrocher, même si le texte ne parle pas de l'esprit, vous allez voir le déroulement de la guérison, on pourra faire des parallèles avec ce que l'esprit a fait en nous et ce qu'il veut faire de nous chaque jour. Marc, chapitre 8, à partir du verset 22. Marc 8, à partir du verset 22. Jésus et les apôtres se rendirent à Bethsaïda. On amena un aveugle vers Jésus et on le supplia de le toucher. On amène un aveugle à Jésus et on lui demande de le toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit à l'extérieur du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, posa les mains sur lui et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et il dit, oh, « J'aperçois des gens, mais je les vois comme des arbres. » Et il marche. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et il vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya chez lui en disant, « N'entre pas dans le village. » Et n'en parle à personne. Ouais, curieux quand même, hein, comme épisode. On va y greffer un peu certaines vérités que nous vivons avec l'esprit. Trois actes différents, trois moments. Le premier, c'est l'apparition de cet aveugle. On présente un homme complètement aveugle à Jésus. On l'emmène parce que lui-même n'aurait pas pu y aller. Probablement des amis, la famille. Pris de pitié pour cet homme, adulte, l'amène à Jésus. Probablement qu'il est aveugle depuis la naissance, ou peut-être depuis son enfance. En tout cas, mesurons quand même l'ampleur de la charge, de l'handicap sur cet homme. L'obscurité totale depuis toujours. Alors je sais que quand un sens manque dès l'enfance, on s'y habitue, mais malgré tout, je veux dire que ne rien voir, l'obscurité, les ténèbres, un peu, j'ai envie de dire, un peu les ténèbres du désespoir qui marquent sa vie depuis la naissance. Et lui-même ne peut absolument rien changer, rien améliorer, rien modifier à son statut. Et moi, j'aimerais déjà faire des parallèles avec l'homme en général. Parce que sa condition physique, eh bien, elle est tout à fait semblable à la condition spirituelle de l'homme sans Dieu. L'homme sans Dieu, qui n'a pas encore rencontré le Christ, ce qu'on appelle dans l'Écriture l'homme naturel, l'homme psychique, l'homme animal, hein, l'homme selon la chair, c'est-à-dire l'homme qui fonctionne avec ses propres ressources, l'homme sans Dieu. Qui n'a pas encore été visité, qui n'a pas encore été régénéré, spirituellement, donc dans le domaine de l'esprit, dans le domaine du spirituel, il est vraiment comme cet aveugle, complètement incapable de comprendre les choses spirituelles. Il est vraiment aveugle. Et là, on peut vraiment être sûr que le problème date de la naissance. Nous naissons comme cela, tous. On ne naît pas chrétien, on ne naît pas avec une relation avec Dieu. On peut naître en étant peut-être plus pieux, plus religieux, mais spirituellement, quand l'homme naît, quand l'enfant naît, il y a une capacité qu'il a perdue, que nos parents ont perdue, quand on est sorti du jardin d'Éden. Donc, comme cet homme aveugle, l'homme sans Dieu, l'homme animal, l'homme, vous et moi, avant la rencontre avec le Christ,
Même s'il y avait peut-être des étincelles spirituelles, un goût, ou complètement aveugle, pas de relation avec Dieu. Et ça n'a rien à voir avec les capacités intellectuelles, ça n'a rien à voir avec le QI, ou le niveau d'études. L'homme qui n'a pas encore reçu, je synthétise beaucoup de textes de l'Écriture, hein, l'homme qui n'a pas encore reçu l'Esprit de Dieu a un voile sur les yeux spirituels, qu'il soit bardé de diplômes ou analphabète, son esprit est mort. Il est aveugle, comme cet aveugle. Même si autour de nous, on voit beaucoup d'hommes et de femmes qui n'ont pas encore été visités et qui semblent avoir un avis très péremptoire sur Dieu. Ne nous laissons pas tromper. Ce ne sont pas nos yeux qui ont capté Dieu. Ce ne sont pas nos oreilles. Ce n'est pas notre intelligence qui ont reçu les choses spirituelles. Si tu vas à un concert, même si tu ne vois pas, ce n'est pas trop grave, tant que tes oreilles fonctionnent, c'est bon. Si tu vas au cinéma, si tu vas à un match de sport, même si tu n'entends pas, c'est un peu dommage, mais tu as besoin de tes yeux. Pour appréhender Dieu, pour être en relation avec Dieu, ce ne sont pas nos yeux, ce n'est pas notre intelligence, mais c'est l'Esprit qui nous révèle et qui régénère cette capacité. Le canal qui s'est coupé dans le jardin d'Éden, il faut qu'il vienne et qu'il le régénère. C'est ça que Jésus dit à Nicodème. Nicodème, il faut naître d'en haut. Nicodème, qu'est-ce que tu racontes? Tu es né de chair, mais tu as besoin de naître de l'Esprit. Paul dit, c'est à nous que Dieu l'a révélé par l'étude biblique? Non. Par la théologie? Non. Par l'institut biblique? Non. Il dit, c'est à nous que Dieu l'a révélé par l'Esprit. Si tu es devenu enfant de Dieu, c'était super que dès l'enfance, tes parents t'aient orienté vers le Christ. Mais la touche finale qui a donné la vie, c'est par l'Esprit. Il y a une conviction, il y a une révélation, pas nos yeux, pas notre intelligence. Paul dit, l'Esprit sonde les profondeurs de Dieu. En Dieu, son Esprit, comme en nous-mêmes, il prend cette image, en nous, même si, par exemple, tu serais en face, à côté de 10 sosies de toi, identiques, ton esprit en toi, ton âme serait dit, « Eh oh, ça c'est vraiment moi. » L'Esprit de Dieu sonde les profondeurs. Et le texte dit, « Et cet esprit vient, et il nous révèle. » C'est comme ça qu'on devient chrétien. Super de connaître plein de choses. Mais ça ne fait pas de moi un chrétien. Mais quand l'Esprit réouvre le canal, rétablit la connexion. Moi qui étais aveugle, sourd, la vie vient. Donc on peut s'identifier à cet aveugle, on est né comme lui, et peut-être certains qui nous écoutent sont encore comme cela, intéressés, mais pas encore eu cette rencontre. Il faut naître de nouveau. Mais deuxième acte de cette petite pièce de théâtre, il va être touché par la grâce restauratrice de Jésus. Il va être partiellement guéri. Alors, curieusement, Jésus ne fait pas comme d'habitude. Il le sort de la foule. Il va en dehors du village. Il va intervenir loin des regards. Il le prend à part et lui impose les mains, met un peu de salive dans les yeux. Autre particularité de l'intervention de Jésus, ça, c'est unique dans les évangiles. À mon avis, peut-être Jésus était un peu fatigué. Et il y a un petit raté, là. Pause. Père. Boum. Tu vois? Oui, oui. On est vraiment étonné. Hein? Ah oui, je vois les gens comme des arbres. C'était un jour un peu de méforme. On va en parler après. Ça, c'est quand même... on est étonné quand Jésus lui dit « Qu'est-ce que tu vois ?» On est surpris par la réponse. Il ne voit pas les gens, il les voit comme des arbres, une forêt mobile. Tolkien, le Seigneur des Anneaux. Il y a les arbres qui bougent. Mais ne perdons pas de vue, dans le contexte, c'est vraiment important, il s'est quand même passé quelque chose. Ouais, le gars était dans l'obscurité la plus complète, et maintenant, ça y est, il voit. Certes, il voit des arbres, il voit les petits oiseaux, il voit les fleurs, Mais il voit. Vous imaginez quand même, lui qui a passé sa vie dans l'obscurité, ça y est maintenant, la lumière, la nature. Nous, parfois, avec nos bons yeux, on parvient même plus à voir les arbres, les animaux. Heureusement qu'il y a le jardin extraordinaire. Quelques heures et on aura rendez-vous. De nouveau, on peut faire des parallèles avec nos vies. Je trouve que notre conversion me fait vraiment penser à cette irruption de grâce dans sa vie et dans la nôtre. Parce qu'à la conversion, quand l'Esprit nous a visités, quand on a compris ce que le Christ avait fait, la lumière est venue. La lumière est venue. L'Esprit est venu éclairer notre intelligence, nos émotions, notre volonté. L'Esprit a réanimé notre capacité de rentrer en contact avec Dieu. À ce moment-là, tu savais que Dieu était là, que Dieu existait. Tu savais que la croix était efficace. À ce moment-là, tes yeux sont ouverts. Il y a une vie, il y a une compréhension qui est venue d'en haut. Comme cet homme, ça y est, il voit. Oh, pas parfaitement, mais l'essentiel est arrivé. Moi, je crois vraiment que la conversion, hein, comprenez ce mot, hein, c'est cette vie nouvelle, la régénération, où l'œuvre accomplie par la croix devient efficace, je me l'approprie, ça c'est le plus grand miracle dans notre vie. Le brigand sur la croix qui va mourir dans quelques instants, qui vient de rencontrer Jésus, il vient de connaître le miracle le plus incroyable. Pour lui, peut-être il aurait aimé que les clous tombent et qu'ils descendent, mais il a reçu la vie éternelle. Nous n'oublions pas parfois après 20, 30 ans de vie chrétienne, parfois même quelques mois, on dit « ouais, oui, voilà ». Mais c'est le plus grand miracle. Je suis réconcilié avec Dieu, la grâce de Dieu m'est tombée dessus, tout est pardonné, je suis enfant de Dieu, il vient vivre en moi. C'est plus encore que rendre la vue à un aveugle. Vous connaissez l'épisode où on présente un paralytique à Jésus, on dégage la toiture, on le fait descendre, et Jésus veut vraiment bénir cet homme. La première chose qu'il fait, il le régénère de l'intérieur. Tes péchés sont pardonnés. La conversion, c'est le plus grand cadeau, c'est la plus grande intervention. Même une résurrection comme Lazare, c'est moins. Parce que Lazare devra repasser encore une autre fois dans le tombeau, pour le même prix. La conversion, plus grand miracle. Beaucoup de voyants autour de nous sont aveugles spirituellement. À la conversion, la plus extraordinaire promesse faite dans la Bible s'est réalisée pour chaque enfant de Dieu. Peut-être tu le sais déjà, mais je crois qu'on a besoin de réalimenter notre reconnaissance, notre vie par ces vérités. À la conversion, la plus grande des promesses faites par l'Écriture s'est réalisée pour chaque enfant de Dieu. Tu es devenu une habitation de Dieu. Ça, c'est la grande promesse de l'Ancien Testament. Dieu n'habitera plus un temple, il viendra habiter en toi par l'œuvre de Jésus. Pas plus certain que d'autres, pas plus en moi qu'en toi. Il vient habiter. L'honneur extrême de devenu le réceptacle de Dieu nous est accordé. Ça, c'est notre héritage. C'est la formidable réalité de cette fête que l'on va bientôt célébrer, la Pentecôte, et qui demeure. Toute la divinité, toute la personne de Dieu se tient maintenant en nous, en toi. Oh, même si peut-être tu n'as pas su mettre un nom sur l'expérience que tu as vécue, c'était ça, il t'a visité. Et certains l'ont vécu peut-être très calmement, très paisiblement, comme une transaction, y compris la croix, on a dit oui. Et puis d'autres ont vécu ça d'une manière tellement bouleversante, émotionnellement écrasante, mais peu importe. La vie nouvelle, c'est la plus grande des promesses. Le Saint-Esprit ne se tient pas simplement au-dessus de Charleroi pour l'instant. Il ne se tient pas seulement parmi nous, il se tient en nous. Il se tient dans chaque véritable enfant de Dieu. Il est venu vers nous, il est venu pour se donner à chacun, pour qu'on puisse le respirer profondément, comme cet air que nous respirons. Merci pour le bon choix des chants. Il est cet air que je respire, il est là en moi. C'est parce qu'on n'a pas encore trouvé les bons scanners, les bons IRM, mais si tu passe devant le scan divin, tu vois l'esprit qui fait « Ouh !» Parce qu'il est là en toi. Il est vraiment là en toi. La Bible dit qu'il est le sceau, le cachet de Dieu. C'est l'acompte. Vous imaginez, Dieu nous aime tellement, il dit « Moi, je verse un acompte. » Parce que je te veux, et je te garantis que quand au renouvellement de toutes choses, je te prends, j'ai déjà versé un acompte. C'est le Saint-Esprit qui nous est donné. C'est la garantie afin que nous en soyons vraiment remplis. Cette première grande grâce dans notre existence devrait déjà faire toute la différence. Donc je fais le parallèle avec cet aveugle, cette première intervention. C'est la présence de l'Esprit doit faire toute la différence vraiment en nous. Et c'est pour ça qu'on a besoin de très régulièrement y revenir, pour ne pas banaliser cela. La présence de Dieu se tient en toi, et sa présence peut faire toute la différence. C'est ce que l'on voit dans le livre des Actes. Ce n'est pas un livre musée où on peut regarder, « Oh, quand même, ils ont vécu des chouettes choses, hein. C'était le bon vieux temps. » Non, c'est pour dire, voilà ce qui se passe quand l'Esprit est là, et il est libre d'agir, et ils ont aussi leurs difficultés. Mais le Saint-Esprit fait toute la différence. Il leur donne une joie incroyable, une puissance incroyable, une force de conviction. Ils ont soif de la parole, soif de la prière. Moi, j'aime bien voir le changement dans la vie de personnes que je connaissais avant et puis qui deviennent chrétiens. Parfois, il y a des gens qui n'aimaient pas lire, et puis du jour au lendemain, ils prennent plaisir à lire l'Écriture. Ils rencontrent Dieu, ils aiment la prière. Il fait toute la différence, il met une joie. Alors que parfois, les Actes, ils vont être persécutés après Étienne, mais qu'importe. Ils annoncent la bonne nouvelle, il y a une telle autorité. Le Saint-Esprit retient ça ce matin. Ce cadeau doit faire toute la différence. Quand je l'entretiens, quand il y a cette vie avec lui, il va faire toute la différence. Paul dit, ce n'est pas un esprit de timidité, de lâcheté qui nous a été donné, mais un esprit de force et de sagesse. Il peut faire toute la différence. Il peut donner la joie même aux plus dépressifs. C'est l'esprit de la joie. Il peut donner le courage. Donc, quel honneur nous devrions manifester au Saint-Esprit? Quel respect? Quelle attention? Quelle précaution? Quelle sensibilité? Quelle obsession? Quel soin? Quelle consécration? Quelle attention? Quelle joie je devrais manifester par rapport à cette réalité? La plus belle chose au monde, je l'ai reçue par l'œuvre de Jésus. Il est là en moi. Oh, j'ai peut-être pas tout ce qui est tendance. C'est pas grave. Il est là en moi. Vous voyez combien nos vies doivent être marquées par cette réalité. Et si souvent, on est un peu comme les 9 lépreux. Vous connaissez cet épisode dans l'Écriture? C'est Luc qui nous rapporte cela. Il y a 10 lépreux qui viennent trouver Jésus en disant, fais quelque chose pour nous dire, allez au temple, montrez-vous au sacrificateur. Et en allant, ils sont guéris. Il n'y a qu'un seul qui revient, et encore c'est un étranger, un samaritain. Et les 9 autres, pour acquis, c'est normal. Et parfois on est comme cela. Oui, il est là en moi, c'est tout. Une roue de rechange, quoi. Encore, dans beaucoup de véhicules aujourd'hui, on n'a même plus de roue de rechange. Une petite bombe. Notre ami souffrait du problème forestier des yeux. Nous, c'est plutôt le strabisme. Vous savez ce que c'est le strabisme? On est louche. On est louche avec le Saint-Esprit. On est louche de notre vie. On ne fait pas suffisamment attention. On regarde là-bas, on regarde combien ça devrait être vraiment un mode de vie. Un mode de vie. Comme l'enfant qui il a reçu quelque chose qu'il aime vraiment, il va dormir avec, il va dans le bain avec, il va passer sa vie avec. C'est ça le cœur du réacteur. Celui qui veut nous remplir, qui veut marcher avec nous. Paul dira même qu'il veut que nous soyons sous son emprise. Il va utiliser l'image dans les 4. Je vais devoir sélectionner, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Il veut qu'on en soit ivre. Vous imaginez ? Nous, on aime bien venir juste avec un petit godet, tout petit peu. C'est bien. Il veut qu'on soit ivre. Quand il vient la première fois, à la Pentecôte, qu'est-ce que les gens disent de ces 120 ? Ils sont quand même bizarres. Hein ? On dirait qu'ils ont bu. Pierre dit non. Non, non, mais ils ont brassé quelque chose à l'intérieur incroyable. Et il y a une joie qui donne à penser. On ne veut pas faire les fanfarons, on ne veut pas simuler. Mais il y a une joie, même en pleine pandémie, mes amis, c'est possible. Avec ou sans vaccin. Et si on faisait vraiment attention à la vie du Saint-Esprit dans notre existence, si on commençait vraiment à choyer, à dormir avec, à aller dans le bain avec, à vivre rempli de lui. Je sais que pour les plus anciens, j'ai déjà donné cet exemple, mais pour les nouveaux, il y a quelques années, quand les hivers étaient assez froids, on avait accueilli des sans-abri, et je me souviens d'un qui m'avait interpellé, Dédé. Il avait passé deux années tout à fait étonnantes. Il me dit, pendant deux années, je n'ai pas dessoulé. Je buvais, je cuvais. Je cuvais, je buvais. Je buvais, deux ans. Et j'ai dit à l'église, ça c'est un très très bon exemple pour nous. Rempli de l'esprit, tu cuves, t'es rempli. Sans cesse, une vie d'ivresse. Ça c'est la vraie vie spirituelle. Une vie de dépendance. Une vie de dépendance. Allez, troisième acte, et on va terminer avec ça aujourd'hui. Sinon, si on n'est pas dépendant et on a tous tellement progressé, on va être comme cet homme, on va voir les gens comme des choses, comme des arbres. Et si souvent, parfois, même chez les chrétiens, on a l'impression que les autres sont chosifiés, déshumanisés, sont des choses, au lieu d'être vus comme ce qu'elles sont vraiment, des créatures bien-aimées de Dieu. Il a besoin de plus. Troisième acte, il va être guéri complètement. Il aurait pu accepter sa nouvelle situation. C'était de toute façon mille fois plus confortable que l'ancienne. Il voyait la nature tout au long de la journée. Il y a des gens qui payent des sommes incroyables pour vivre une journée, une nuit, en pleine nature. Mais il a voulu plus. Et il l'a eu. J'ai envie de nous dire, je fais un parallèle avec cela. Hein? Alors, ok. À la conversion, tout est donné. Tout. Le Christ, pas un quart de Christ, un quart du Saint-Esprit, il vient. Tu es vraiment pardonné, tu es vraiment héritier. Mais j'ai envie de dire, il y a plus, on peut expérimenter plus, on peut grandir davantage. Et ceux qui me connaissent savent que voilà ma citation préférée de Tozer, même parmi toutes les autres. Le christianisme, c'est plus que cela. Écoutez bien ce qu'il dit. L'Église, chaque chrétien, est appelé à vivre au-dessus de ses propres capacités. L'homme naturel, il a ses propres capacités. Regardez, on va sur Mars quand même. C'est pas mal. Mais le chrétien, il est appelé à vivre au-delà de ses capacités. Au-dessus de ses propres capacités. Nous sommes appelés à vivre à un niveau si élevé qu'il est impossible à aucun être humain de vivre de cette façon par ses propres capacités, par ses propres forces. La vie chrétienne, c'est un miracle. Il y a un réacteur qui est venu en nous qui nous permet de vivre à un niveau beaucoup plus élevé. Le plus humble des chrétiens, bienvenue parmi nous, est destiné à vivre un miracle, une vie qui soit moralement, spirituellement si intense et si pure qu'aucun être humain n'a la capacité de faire cela. Seul Jésus peut le faire en toi. Son désir est que le Saint-Esprit du Christ vienne sur son peuple. Ça, c'est la vie chrétienne. Jésus ne dit pas, « Oh les gars, il y a une petite étincelle divine en vous. Vous pouvez faire un peu de bien, ce sera sympa, souriez. Hein? » Non. Je sais bien que vos capacités pour faire mon œuvre sont disqualifiées. Mais moi, je vais venir en vous. Je vais mettre un moteur de Ferrari dans la deux chevaux. Ok, la deux chevaux reste ce qu'elle est. Hein. Tu es venu au Seigneur, pas forcément que tu as eu plus de cheveux, plus de muscles. Mais à l'intérieur, il y a une vie, il y a un potentiel, il y a un moteur, il y a un réacteur qui est là, qui te donne une capacité de vivre en vainqueur, moralement, spirituellement. Dans le livre des Actes, il est dit que le Sanhédrin, en voyant Pierre, Jacques et Jean, dit « Ce sont des gens sans instruction. » En grec, « des idiotai. » Faut-il traduire ? Pas une bonne réputation. Et pourtant, ils leur ont cloué le bec. Rien à dire. Ils ne savaient rien répondre. Ils ont vu que cet homme était guéri. Ça, c'est le potentiel que nous avons. C'est le Saint-Esprit en nous. On n'est pas appelé à être des gardes forestiers. Et n'acceptons pas peut-être la médiocrité ambiante. On est destiné à vivre beaucoup plus, beaucoup mieux, beaucoup plus haut grâce à l'Esprit de Dieu en nous. Ce semi-aveugle, ce semi-voyant, il a voulu plus, il l'a eu, et il a vu. Je crois qu'on a besoin aussi d'être comme ça, très, très ambitieux. Il faut qu'on aille sur Mars spirituellement. Pourquoi il y a que le monde qui peut inventer des trucs, qui peut... Bien sûr, on sait que c'est l'Esprit de Dieu qui agit, mais l'Église, dans le livre des Actes, on les redoutait. S'il y avait eu une épidémie, aux infos, on aurait parlé d'eux. On ne confinait pas si facilement que ça des gens pareils. Aujourd'hui, on va parler des parcs animaliers, on va parler du kayak, on va des baraques à frites. On n'a toujours pas entendu une seule fois parler de l'Église. Peut-être parce qu'ils ne nous aiment pas, mais peut-être parce que si on n'était pas là, ils ne verraient pas la différence. Ça fait mal entendre, mais peut-être c'est vrai. Donc, il faut que ce réacteur, mes amis, il se mette en route. Alors, je bénis Dieu pour tout ce qui s'est déjà fait, mais il y a... L'Église des Actes, on la craignait, on la redoutait. Ils ont eu peur de toucher à Pierre et Jean parce qu'ils avaient peur d'être lapidés. Le Saint-Esprit qui nous a été donné n'est pas une roue de secours. C'est pas un petit plus, un extra, pour les super créatures que vous êtes. C'est pas ça. Il est présent dans l'univers. L'Écriture dit même qu'il a créé l'univers avec Jésus et avec le Père. Et pour chaque enfant de Dieu, l'Esprit nous fait le privilège de venir habiter en nous. Et le Père dit même, je suis jaloux de mon Esprit qui est en vous. Ça veut dire qu'il y a une part de l'Esprit qui n'est pas au ciel, parce qu'il est prisonnier en toi, et il se plaît en toi. Peut-être juste encore un mot ou deux. Quand il vient en toi, il ne vient pas avec ses propres affaires, ses propres décorations. Non, la Bible dit qu'il prend tout ce qui est à Jésus et il garnit notre vie intérieure de la personne de Jésus. Ce qui veut dire qu'être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas devenir quelqu'un de bizarre, c'est avoir la même vie que Jésus, c'est être bouillonné de l'intérieur par Jésus. Quand tu vois qui est Jésus, tu vois ce que le Saint-Esprit veut faire. Il ne va pas faire de toi quelqu'un de bizarre. Il y a quelque temps, je voyais, c'était vraiment, je ne sais plus où, dans une église où on parlait beaucoup de l'Esprit, et l'Esprit dit, le prédicateur dit, l'Esprit vient, maintenant vous allez brouter de l'herbe dans le jardin de l'église, et on voit tous ces gens qui se sortent. Moi, je ne vois pas Jésus hein, manger de la... L'Esprit vient et il installe Jésus. Ce qui veut dire qu'on est habité par la personnalité la plus noble, la plus pure. C'est chouette hein, d'être avec des chouettes personnes. Et avec les autres aussi. Ils sont en devenir. Mais ce que je veux dire, c'est que la personnalité la plus noble, la plus belle, la plus sensible, elle est là en toi. La plus charmante. Les femmes donnaient leur bébé à Jésus. Déjà, moi-même, deux fois grand-père, moi je ne demande pas, j'attends qu'on me le donne, parce que je sais, et elles le donnent, elles sont contentes. Hein. Mais je veux dire, c'est quelque chose quand même quand un enfant est donné quelques instants à quelqu'un. Et les mamans donnaient leur enfant. Je dis, est-ce que tu peux le toucher ? Personnalité des plus belle, plus attirante, plus douce, plus sainte. Il ne va pas faire des choses bizarres, n'aie pas peur. on doit devenir des évangélico-charismatiques. Jésus est l'Esprit. Jésus est l'Esprit. Il va nous rendre capables d'avoir la même vie que Jésus, les mêmes paroles, les mêmes regards, le même potentiel. On va parler de cela dans les quatre messages. Le même potentiel que Jésus. Vous voulez voir ce que c'est? Je pense qu'on va faire ça la semaine prochaine. Vous voulez voir ce que c'est la vie qui devrait être la nôtre? Regardons à Jésus. Regardons à Jésus. C'est possible pour chacun d'entre nous. C'est vraiment possible pour chacun d'entre nous. Je repense au message de la semaine passée. Je ne peux rien préférer d'autre qu'à cela. Et ça, c'est souvent notre souci. On a les mains pleines de bric-à-brac qui nous empêchent que l'Esprit vienne et nous donne son abondance. Il y a des choses que je préfère plus. Et la preuve, c'est que je n'ai pas assez de temps pour m'exposer. C'est un peu comme si je voudrais être super brun, bien bronzé, mais je n'ai pas le temps pour m'exposer. Ça ne marche pas, quoi. Tu veux être rempli du Saint-Esprit? Tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que je veux? Je crois que le Seigneur veut nous dire, qu'est-ce que tu veux de moi? Je suis là en toi? Ok, ça, tout est là. C'est un petit peu comme si tu vas chez le médecin, tu n'as jamais fait de sport, et puis il dit, mais vous savez que, avec tous les examens qu'on a faits, vous avez un cœur, vous avez un corps de marathonien. Je dis, mais après 20 mètres, mais si tout est là, faut juste acheter une paire de baskets et vous que tu t'y mettes. C'est ça la conversion. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux continuer à être essoufflé après une rampe d'escalier? Ou tu te dis, ok, le potentiel est là, je vais devenir cet athlète. Je vais devenir cet homme, cette femme remplie du Saint-Esprit. Ça, c'est notre appel. Je termine en nous disant, peut-être, mais ça, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Je voudrais juste nous dire quatre petites choses, les éléments constitutifs de cette communion. Tout d'abord, il faut que tu fréquentes le Saint-Esprit. Nos grands-parents aimaient bien ce verbe-là. C'est pas qu'on était avec quelqu'un, qu'on sortait ensemble. Je fréquente. C'est beau. Fréquente le Saint-Esprit. Fréquente et fréquente. André Adoul, un vieux pasteur qui est mort maintenant, avait écrit un chouette livre. L'Esprit de Dieu, le grand oublié. Fréquente-le. Il veut devenir ton ami, ton coach. Il veut te parler, il veut t'entendre, il a des choses à te dire, à te faire expérimenter. Et tout ce que nous n'avons pas, il l'a. Et il veut dégager. Prends du temps, prends du temps. Je pense que c'est souvent ça notre problème. Pas assez de temps. Il faut peut-être que tu déposes davantage ton Saint-Esprit, ton GSM. Tu as trop de notifications extérieures et lui voudrait biper si souvent dans notre vie. Mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Alors c'est clair, si tu veux devenir un marathonien, si tu cours 15 minutes par mois, c'est pas gagné d'avance. Hein, si tu veux devenir un musicien, si tu gratouilles à la Saint-Sylvestre, tu ne le seras jamais. Il y a des méthodes pour apprendre des langues en 3 leçons. Ouais, tu dois payer, mais puis tu ne parleras jamais cette langue-là. Est-ce que je veux devenir vraiment un intime du Saint-Esprit? Ça ne va pas me tomber dessus comme une mauvaise grippe, hein, être spirituel de l'Esprit. Il faut que je fréquente. Deuxièmement aussi, honore Jésus. Honore Jésus. Aime-le, glorifie-le, élève-le, sublime-le dans ton cœur. Parce que là où Jésus est aimé et servi, le Saint-Esprit s'engouffre. Allez, le spot que l'Esprit braque, c'est toujours sur Jésus. Toujours. Et là où il y a des hommes et des femmes qui aiment Jésus, qui veulent servir de Jésus, qui parlent de Jésus, le Saint-Esprit est vraiment à l'aise. Vraiment à l'aise. Troisièmement, fréquente-le, aime Jésus. Marche aussi dans la droiture. Parce que c'est quand même très fréquent aujourd'hui de s'imaginer que je peux vivre comme je veux et ça va marcher. Et je serai un chrétien spirituel. Ça ne fonctionne pas comme cela. Je ne vais pas le traîner dans ma boue, dans mes magouilles, dans mes compromis, dans ma malhonnêteté, dans mon impureté, dans ma cupidité. Je crois vraiment qu'on doit décider. Comment est-il appelé dans l'Écriture ? Le Saint-Esprit. C'est pour ça, Paul dit, ne l'attristez pas, parce que quand je mijote dans le péché, je ne dis pas qu'on est sans péché. Le chrétien, il doit être saisi par le péché, jamais mijoter dedans. Il peut tomber, on demande pardon, mais pas mijoter, marche dans la droiture. Et puis enfin aussi, je voudrais nous dire que l'Esprit prête moins attention aux choses extérieures qu'aux choses intérieures. Fais attention à ta vie intérieure, à tes pensées, au sanctuaire de tes pensées. J'aime à me dire que les pensées, ce sont des choses. Ce n'est pas rien, une pensée. C'est quelque chose qui aboutit toujours à quelque chose. Comment tu pourrais imaginer l'intimité avec le Saint-Esprit si toute la journée tu es en train de vivre dans la jungle, de l'immoralité ou du mensonge? Il ne va jamais venir avec une machette dans la jungle de mes pensées. Jamais. Il m'appartient d'orienter mes pensées, de centrer mes pensées. Pierre dit, mobilisez toutes vos facultés mentales. Je dois filtrer. Paul dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, fasse l'objet de vos pensées. C'est pour ça qu'on a beaucoup parlé de la méditation, de la lecture de la Bible, parce que je suis en train de renouveler mes pensées. Et c'est ça qui permet aussi au Saint-Esprit de nous parler sans arrêt. Parce que mes pensées ne vont pas vagabonder, elles sont centrées vraiment sur lui. On développera d'autres choses, mais c'est comme ça qu'on active le réacteur. Alors je conclue. Mais bien sûr que Jésus voulait guérir cet homme. Mais il savait que j'avais besoin de ces deux étapes pour la prédication, donc c'est pour ça que... Non, voilà, je pense... Moi, je crois que à travers cette histoire, Jésus veut nous dire qu'il y a des choses qui ne sont pas instantanées, que la plénitude c'est pas une grâce qui se trouve dans un paquet unique qu'on a une fois pour toutes. Acte 2, l'Esprit est venu. La maison a tremblé. Acte 4, la maison a encore tremblé. Et j'ai besoin qu'elle tremble aujourd'hui et encore demain et encore demain. Ok, tout est là à la conversion. Le Christ est là. Je suis déjà enfant de Dieu. Mais j'ai encore besoin qu'il me touche. J'ai besoin d'organiser ma vie autour de ce réacteur, autour du plus grand cadeau, la présence de Dieu qui nous est donnée. Combien j'ai besoin de l'honorer. Ce matin, pour jouir de tout ce que Dieu a prévu pour nous, il faut que nous nous représentions encore et encore. Il faut que je me laisse toucher par les mains de Jésus, par son regard, par sa grâce. Ma question pour nous ce matin, c'est de quoi est-ce que je vais me contenter ? Des arbres ? Ou une vue extraordinaire ? Voir dans l'invisible. Moïse l'a dit qu'il voyait dans l'invisible. J'ai besoin de voir les choses dans le spirituel. C'est ça que l'Esprit va faire. On a dit, en commençant le cap 28, qu'on a besoin de devenir des experts dans toutes ces compétences, et particulièrement celles-ci, des hommes et des femmes qui savent ce que c'est être remplis, animés, possédés par le bon Esprit de Dieu. Que le Seigneur nous aide vraiment dans cette fin de pandémie, j'espère, alors qu'on va bientôt se retrouver, qu'on ne se retrouve pas comme des chétifs, assoiffés, aveugles, mais au contraire, une église tellement forte, chargée, prêt à aller et à offrir cette vie abondante. Seigneur, nous sommes là devant toi ce matin. Nous avons besoin de toi. Merci pour tout ce que tu as prévu pour chacun d'entre nous, pour ce salut si grand, Jésus-Christ. Cette vie abondante, ce plein pardon. Merci parce que tu as accepté de venir habiter en nous. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous. Toutes les fois où nous t'avons négligé, nous t'avons emmené dans des endroits louches, Seigneur, où nous étions boiteux d'un côté et de l'autre, où c'était surtout notre moi, nos idées, notre chair. Pardonne-nous, Seigneur. Nous voulons vraiment devenir des êtres remplis de l'Esprit, animés de l'Esprit, conduits par l'Esprit, sous l'emprise de l'Esprit. On veut progresser encore et encore. Aujourd'hui, nous sommes là devant toi, en te demandant en tant qu'Église, viens nous toucher, Seigneur. Viens nous toucher encore et encore. Merci Jésus parce que tu le fais. Nous tendons nos mains vers toi. Remplis-nous, Seigneur, remplis-nous. Nous avons besoin encore de la Pentecôte, encore de cette vie nouvelle. Tu es là, Seigneur, nous le savons. Montre-nous ce qui fait peut-être obstacle pour plus et plus de toi. Amen.